Alors qu'un événement soit vu, entendu, pensé, qu'il s'agisse d'une pensée, de parole à l'intérieur de soi ou d'impression, d'image, que ce soit quelque chose de ressenti dans le corps, il y a toujours cet aspect-là qui est présent de plaisir, déplaisir, plaisant, déplaisant, ou ni l'un ni l'autre. Ça vient là avec l'expérience humaine. On n'a pas à fabriquer ça, ça vient avec. C'est d'ailleurs beaucoup le jus de notre. Si on enlevait ça, un peu comme si on regardait la télé sur mute, là, sans le son, on serait un peu. On se retrouverait pas dans l'expérience humaine. Ça fait complètement partie de notre expérience. Ce matin, vous prenez une bouchée, tout de suite c'est là. Ah, c'est délicieux ou non, ou comme ci ou comme ça, mais il y a du plaisir, des plaisirs qui est là. Une pensée vous traverse l'esprit. Ah, c'est une pensée déplaisante. Pensée qui amène la honte. J'ai oublié de faire tel truc. Ah, c'est déplaisant. Certaines pensées. Ah, la semaine. Quand je vais enfin être sorti d'ici, relâché de ce lieu. Une pensée plaisante traverse l'esprit. Oui. Ah non, ils vont me laisser partir, je vais rester ici à jamais, je ne vais pas retourner dans ma vie. Pensée déplaisante. Alors, on peut devenir conscient de ça au moment où ça se passe. C'est un champ d'exploration très, très riche. Hein? Ce matin, ici, on a aéré un peu, là, quand on est entré, il y avait un peu de froid. Alors, il y avait l'expérience du froid. Cette expérience-là elle-même, elle est particulière, l'expérience du froid. Mais en plus, il y avait probablement, pour certains d'entre nous, une tonalité de plaisir ou de déplaisir. Et aussi important, ni l'un ni l'autre. Alors, il y a certaines sensations qu'on ressent, gonflement du ventre. C'est pas particulièrement agréable pour certains d'entre nous ou particulièrement désagréable. C'est plutôt neutre. On est invité dans la pratique à être conscient, à s'éveiller à ça. Ah, c'est plutôt neutre. Pourquoi? Encore une fois, plusieurs d'entre vous le savez, c'est parce que beaucoup de notre souffrance est associée à ça. La réaction standard ou commune quand quelque chose est plaisant, c'est que l'esprit, tout à coup, saisit, s'accroche. Ah, c'est bon. C'est quoi la recette de ce truc? Je veux la recette de ce truc, tu sais. Alors, l'esprit tend à. Pas toujours, et ça, on veut voir ça pour nous-mêmes en action. Quand c'est déplaisant, on tend habituellement à rejeter, penser que quelque chose ne va pas, que ça ne devrait pas exister, que ça ne devrait pas être là. Donc, je blâme l'autre, je blâme le bon Dieu, je blâme la météo, je blâme. Parce qu'il y a quelque chose de désagréable qui se passe. Alors, voyons ça si c'est vrai. Notre rapport au désagréable. Je suis assis, tout à coup, ça se met à tirer ou percer ou transpercer ou déchirer dans le genou. C'est désagréable. C'est possible que tout de suite, il y ait une réaction de peur, une genre d'implosion, d'explosion, de rejet. Je veux pas ça. Alors, on peut noter ça si c'est le cas. Maintenant qu'on a pratiqué plusieurs heures, les chances sont que pour nous, les plaisirs soient reçus avec grande sagesse, qu'ils soient connus, reconnus. Ah, très très plaisant, sans aucune prise, aucune saisie. Que les déplaisirs qu'on va ressentir aujourd'hui, je blague un peu parce que c'est des vieux patterns, là, c'est des vieux conditionnements, ça risque de pas être si facile que ça, mais s'il y a quelque chose de désagréable qui se passe, puis observez un esprit stable qui est capable de voir, ah, désagréable. C'est vraiment, réellement désagréable, sans ce que le mental se braque, se rigidifie, qu'il y a des tensions qui s'ajoutent. Et le troisième, c'est quand c'est ni agréable ni désagréable. La réaction habituelle, commune chez l'espèce humaine, c'est en fait de manquer, de pas vraiment pouvoir bien sentir. Il manque quelque chose, on devient un peu perdu. Alors souvent, les gens dans la méditation, par exemple, vont dire, il se passe rien, qu'est-ce que je devrais faire? Il se passe rien. C'est parce que c'est plutôt neutre, c'est ni agréable ni désagréable. Puis là, on est perdu. on pense qu'on ne fait pas les choses bien, qu'il manque quelque chose, qu'il devrait se passer autre chose. Non, c'est seulement ni agréable ni désagréable, c'est neutre. Puis c'est confondant pour les êtres humains. En fait, la plupart des stimulations qu'on reçoit, les contacts avec les sens, sont neutres. Mais souvent, on le rate. Hein. On va se promener sur la rue, les gens qu'on rencontre sont neutres, mais on va accrocher sur la personne qu'on trouve particulièrement belle et attirante ou particulièrement effrayante ou quelque chose comme ça. On va aller vers les stimulations plaisantes et déplaisantes très vite. Je crois qu'en partie, ça doit être biologique, là. C'est pour la survie. Quand on était unicellulaire, etc. À l'époque, vous souvenez-vous? Et donc, ça, c'est une des choses dont on peut être conscient aujourd'hui. Là. Il va y avoir les sensations elles-mêmes, le froid, le chaud dans les mains, le picotement, le toucher. Puis on peut s'intéresser, se poser la question, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Souvent, quand il n'y a pas de réponse, c'est parce que c'est ni l'un ni l'autre. Ni agréable, ni désagréable. On peut être conscient de ça. Ah, c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça en ce moment. Il y a plein d'enseignements autour de ça. On aurait pu faire toute une semaine juste autour de ça parce que on voit comment nos opinions se forment aussi, souvent. On pense que nos opinions sont très raisonnables, j'y réfléchis longtemps, tout ça. En fait, non. Ce qui s'est passé était très désagréable, alors je suis contre, tu sais. Et peut-être que je dirais plus de mots là-dessus. Peut-être une petite chose que je disais dans un des groupes hier, il y avait Damadina, je crois, qui était une moniale très, très reconnue à l'époque du Bouddha. Je me souviens pas quel titre le Bouddha lui avait donné, quelque chose comme ça. Mais quelque chose à propos de sa sagesse. Là. Et elle, il y a un moment où elle rencontre, dans un des sutras, elle rencontre son ex-mari, qui est devenu moine aussi. Et lui demande, dis-moi quelque chose de nouveau sur ce qu'on appelle Vedana, cet aspect-là de la réalité, de plaisir, déplaisir. Dis-moi quelque chose de nouveau là-dessus, que peut-être que je ne connais pas. Puis elle lui dit plusieurs choses, mais entre autres, j'aime bien celle-là, elle lui dit, tu sais, les choses plaisantes, quand elles finissent, c'est déplaisant. Et les choses déplaisantes, quand elles finissent, c'est plaisant. Puis je trouve qu'il y a une profondeur là-dedans, parce que quand on a tendance à s'accrocher aux choses plaisantes, si on sait que les choses plaisantes vont finir, et que ça va être c'est comme l'un contient l'autre, hein? Ils font partie sur une certaine durée, là. Ils font partie un de l'autre, il y a comme... J'ai toujours trouvé cet enseignement-là très calmant au sujet de dans notre, nous, là, notre recherche du plaisir, là, du confort, là, etc. Juste pour vous intriguer un petit peu plus aussi, ou si vous voulez explorer davantage, c'est plus large comme enseignement, mais rapidement, je dirais qu'il y a des choses désagréables, des sensations, des émotions, des états mentaux désagréables qu'on connaît, qui sont, qu'on dit, libérateurs. Alors, sur le chemin spirituel, il y a beaucoup des qualités qu'on développe qui sont agréables. Hein? Alors, le calme, ça peut être neutre aussi, mais ça peut être agréable. Je vais dire ça plutôt comme ça. Pour moi, dans mon expérience, plusieurs des qualités sur le chemin qu'on développe sont agréables. La curiosité, l'exploration, l'investigation, l'équanimité, la joie. Il y a beaucoup de place pour la joie dans la pratique. Alors ça, c'est agréable à ressentir. Quelques-unes des qualités ne sont pas agréables à ressentir, mais pas enchaînantes, sont libératrices. Par exemple, il y en a deux qui sont connus comme étant les gardiens du monde, je crois. C'est, en pali, c'est Eri et Otapa. Alors, il y en a une, c'est la honte qu'on peut ressentir à l'idée de commettre, de faire un geste ou de dire quelque chose qui serait blessant. Alors, On connaît ça, non? On s'imagine, là, je vais juste faire ça. Puis tout à coup, il y a une honte qui nous... Ouf, ça devient très chaud, puis on a honte de nous-mêmes. Je m'apprêtais à dire ça ou je m'apprête à faire ça. Puis le Bouddha disait, c'est ça, c'est une bonne indication, là. C'est désagréable pour que tout à coup, on se pose des questions sur notre comportement. Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Encore, ça doit venir avec du discernement, parce que certains d'entre nous, à chaque fois qu'on parle, la honte vient, alors il y a quelque chose de... Peut-être pas... Il y a peut-être la place pour plus de sagesse là-dedans, là. Mais ça... Ou, par exemple, la honte de l'autre côté d'un geste. Pas la culpabilité, pas la haine de soi, mais une honte spirituelle, on pourrait dire. Une reconnaissance qu'une parole ou un geste a été... créer du trouble chez soi ou chez l'autre, quelque chose comme ça. Alors on peut ressentir ça sans tomber dans la haine de soi, mais quelque chose de très, le mot me vient en anglais, le clean. Alors on peut ressentir ça, qui nous aide à réaliser que, ah, ça, c'était trouble, c'était pas un geste que je veux faire à nouveau, dans de pareilles circonstances. Vous entendez la petite clochette qui vous invite à venir méditer. Peut-être que ça a une connotation désagréable, mais peut-être que c'est pour votre libération. Alors, on peut être attentif à ça aujourd'hui, voir. Voir les fluctuations, hein? Il y a toujours cette instruction-là du Bouddha, voyez la présence, l'absence, puis la naissance et la disparition. Alors on voit ce truc-là de plaisir, des plaisirs, le Bouddha comparait ça à des bulles. C'est un peu comme des bulles dans du champagne, par exemple, je ne sais pas s'il utilisait exactement cette image-là. Mais ça apparaît, ça disparaît. Nous, on peut mettre investir énormément de temps, de pensée autour du plaisir, puis quand on s'attarde à cette expérience-là, on voit qu'elle naît, elle disparaît, très instable. C'est calme, c'est plaisant d'être ici. Tout à coup, un bruit, une pensée traverse l'esprit, oups, le plaisir est complètement disparu. On est dans le déplaisir. On peut voir la nature instable de ça si on s'y attarde un peu. Encore une fois, on voit là, que ça prend un esprit qui s'est calmé, là, qui est unifié. Parce que sinon, on est pris dans nos idées sur les choses. On pense aux choses, on pense à ce qu'on voudrait, nos préférences, etc. On ne peut pas noter, on ne peut pas vivre l'expérience de l'apparition puis de la disparition du plaisir ou du déplaisir. Alors aujourd'hui, à certains moments, ça pourrait devenir... particulièrement présent, outstanding. On pourrait voir, ah oui, ok, ça c'est une expérience plaisante. Puis je vois que c'est rencontré avec beaucoup de calme et d'aisance, il n'y a pas de prise. Ou, ah là c'est plaisant, et là il y a comme un. Que personne n'y touche, c'est à moi. Une appropriation, une peur de perdre, etc. On va voir tout ça à l'attaque. Je vous invite à sentir le corps qui est assis. Vous pouvez déjà peut-être noter en général si c'est plutôt plaisant d'être incarné ou déplaisant pour vous, ou ni l'un ni l'autre. Le fait qu'on s'y attarde un peu, on peut peut-être découvrir qu'il y a des régions qui sont plaisantes, d'autres plutôt neutres. Puis il y a peut-être quelques endroits dans le corps qui sont désagréables en ce moment. Voyons voir aussi si déjà, là, au départ de cette méditation-là, dès maintenant, on peut inviter un esprit amical. Il n'y a pas l'exigence là, d'être efficace ou quoi que ce soit, mais plutôt, peut-être, si c'est possible, plutôt bienveillant et curieux, un esprit curieux qui veut découvrir la vie comme elle se manifeste. Si vous voulez amener votre attention dans le ventre, juste pour sentir les mouvements de la respiration, puis voyez si c'est plutôt neutre pour vous, agréable de faire ça. Pour plusieurs d'entre nous, souvent, c'est plutôt neutre. C'est une des raisons pourquoi les gens trouvent parfois ça difficile de rester avec la respiration. Parce que c'est pas particulièrement agréable ou désagréable. Nous, on essaie un peu de voir si c'est possible d'être présent à ce qui est agréable, d'avoir une expérience d'intimité avec ce qui est agréable. Puis de la même façon avec une expérience désagréable, est-ce qu'on peut rester stable, bien connaître ce phénomène-là, cet événement-là? Puis aussi avec les choses qui sont ni agréables ni désagréables. Est-ce que c'est possible de rester présent, de ne pas partir dans des pensées habituelles, de ne pas se perdre, mais rester connecté, près de l'expérience, dans l'expérience, éveillé. C'est possible qu'on voit aussi que la qualité de notre esprit change l'expérience. La qualité de l'attention à la respiration pourrait rendre cet événement-là agréable. S'il y a la présence de calme ou de joie, si l'esprit n'est pas trop encombré ou agité. Dhamma Dina, il y a 2500 ans, semblait dire que pour elle, ce qui était neutre, quand c'était rencontré avec pleine conscience, ça devenait un peu agréable. Ce qui était neutre, sans la pleine conscience, sans l'attention, ça devenait désagréable. Voyez si c'est comme ça pour vous ou non. Notez l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment, si c'est plutôt plaisant ou déplaisant, ou ni l'un ni l'autre. S'il y a une vague d'irritation, c'est probablement déplaisant. Si l'esprit est très amical, peut-être que c'est plaisant là-dedans. C'est possible aussi que ce soit ni l'un ni l'autre, parce que l'esprit est plutôt calme, stable. Un phénomène, un événement vient à l'avant-plan de votre expérience, laissez-le être connu. Si un son apparaît, laissez-le être pleinement connu. Pas besoin de résister à ça. Si une pensée traverse l'esprit, devenez conscient de ça. Si ce dont vous faites l'expérience est désagréable, essayez de voir si c'est possible d'inviter la compassion plutôt que la réactivité. C'est pas facile de ressentir les choses désagréables. Si ce dont vous faites l'expérience est agréable, plutôt que de s'y accrocher comme le mental pourrait le faire, laissez-vous apprécier ça, vraiment sentir ça. Laissez le plaisir rafraîchir votre esprit. Si ce dont vous faites l'expérience est plutôt neutre, plutôt que de tomber dans l'ennui, l'oubli, essayez de voir si c'est possible d'inviter de l'intérêt, de la proximité, être intrigué par la neutralité elle-même. celui qui allait devenir le Bouddha, une partie de sa vie où il recherchait le plaisir, hein, cette accumulation-là du plaisir, d'expériences plaisantes, confortables, etc. Puis après, il y a une deuxième partie de sa recherche où est-ce que là, il évitait le plaisir, pensant que le plaisir était enchaînant. Il faut éviter le plaisir à tout prix, parce que c'est enchaînant. Puis donc, aller vers plusieurs expériences très déplaisantes. Puis un moment, puis encore une fois, c'est le début de la voie du milieu, là, où il dit « Ah, c'est pas le plaisir n'est pas un problème. Le problème, c'est la saisie qui peut venir avec le plaisir. Le plaisir en lui-même n'est pas un problème. Le déplaisir n'est pas un problème non plus. C'est la saisie qui est le problème. C'est un événement mental. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est voir ça, faire ressortir ça. » Quand il y a une expérience de plaisir, puis que là, l'esprit se contracte tout ça, autour de peur de perdre, etc. Une des choses qu'on peut peut-être voir aussi pour nous-mêmes ou sentir faire l'expérience, dont on peut faire l'expérience directement, c'est que le plaisir est souvent pour nous, dans notre attention habituelle, le plaisir est dans l'objet. Ça, c'est plaisant. Comme si ça venait avec. Alors que, imaginez, certaines odeurs pour un chien sont très plaisantes. Et nous, les mêmes odeurs sont très déplaisantes. Hein. Alors, imaginez maintenant quelqu'un que vous adorez qui se met à vous flatter les cheveux tendrement. Expérience très agréable. 4 heures plus tard, toujours en train de vous flatter les cheveux. Même exact mouvement, même légère pression, même... Et là, tout à coup, c'est plus agréable du tout. Pourtant, c'est le même événement. Mais donc, ce qui fait qu'une chose est plaisante ou déplaisante, nous, souvent, on approprie ça à quelque chose. Alors que souvent, en fait, c'est des millions de conditions qui font qu'une chose est plaisante pour l'un, déplaisante pour l'autre. Même chose. J'ai un ami qui adore le rock heavy metal. Pour lui, c'est très plaisant. Il va à des festivals de rock ou pendant de heavy metal pendant 5 ou 6 jours. C'est du matin au soir, c'est du heavy metal. Est-ce que ça serait une expérience plaisante pour tout le monde, pour chacun d'entre nous? Peut-être pas. Et puis là, on peut faire comme, mais non, mais ça, c'est déplaisant. Mais pourquoi ça? Mais parce que l'expérience de plaisir, des plaisirs, peut-être est plus intérieure qu'extérieure, ou à quelque part entre les deux. Ça peut être intriguant de voir ça, comment, tu sais, il y a des gens que moi je rencontre, puis ils m'apparaissent comme déplaisants. Mais peut-être qu'ils ressemblent à quelqu'un qui m'a dit quelque chose un jour, que j'ai vraiment pas aimé, toujours pas digéré. Et là, tout à coup, j'applique ça à cette personne-là déplaisante. Mais peut-être qu'une partie de l'événement est mentale, puis ça serait bien d'être au courant de ça. Alors aujourd'hui, peut-être que ça, parmi toutes les choses qui vont nous apparaître, peut-être que cet aspect-là va avoir une certaine richesse, là. Puis cette notion-là de plaisir, déplaisir et neutralité, on dit que ça fait partie des 8 grands vents, là, de l'accumulation, la perte, le blâme et les louanges. Après, qu'est-ce qu'il y a? La gloire et la... c'est quoi l'opposé de la gloire? Ouais. Enfin, on voit là, les grands vents de... Donc, l'enseignement là-dedans, c'est que le plaisir et le déplaisir font partie de la réalité. Alors, et nous, souvent, on pense que, là, il y a quelque chose qui a mal tourné dans la réalité parce que c'est déplaisant. Alors, ça n'aurait pas dû se passer. Le déplaisir, ça fait partie de la nature de l'expérience humaine. Puis, on essaie de voir, encore une fois, comment on peut avoir une certaine grâce au milieu de ça. Ça ne veut pas dire qu'on devient un tapis là, sur qui tout le monde peut marcher et qu'on accepte tous les déplaisirs, etc. Mais qu'il y a une compréhension aussi sage qu'il y a des choses désagréables qui vont se passer. Que ce n'est pas une faute de l'univers, là, que ça fait partie de comment les choses se passent. Là. Qu'il y a des sensations déplaisantes, des goûts, des odeurs, des pensées, des situations, etc. qui sont déplaisantes. Il va y en avoir d'autres. C'est promis. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou à d'autres aspects de la pratique ce matin? Oui, Jean.
C'est sur l'activité de pensée, en fait. Donc la pensée, on peut voir des fois derrière qu'il y a des énergies, en fait, et que c'est pour ça qu'on pense. Enfin, des fois c'est juste pour, enfin, je parle pour moi en tous les cas, pour sortir, enfin, pour sortir d'un déplaisir, pour ne pas regarder un déplaisir dans le corps. Alors. Et puis il y a des pensées qui sont plus difficiles peut-être à classer, qui sont peut-être juste des choses qui reviennent parce qu'on les a beaucoup mises à l'intérieur de nous. Donc, et là, moi, je. Bon, ça va faire rire, mais pendant la retraite, là, je planifie un anniversaire surprise. Et...
Pendant la retraite?
J'en ai eu l'idée à la première méditation et
ça avance bien le projet. Quand je guide, ça gêne pas trop.
C'est juste des petits flashs très courts. Mais c'est assez frappant parce que l'esprit continue, il reprend pas la même chose, il continue tout à coup pas comme ça. Et donc, j'ai tendance à balayer la pensée, quoi. Mais bon, ça. Hop.
Ça revient.
Mmh. Et ça avance. C'est un peu bizarre, mais.
Non, mais c'est une très bonne description d'un truc où il y a.
C'est le truc, quoi.
Est-ce que. Une façon de décrire ça, ça pourrait être le mot saisie. Parce que. Parce que, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose, toi, tu as une idée agréable, tu sais, tu veux offrir à quelqu'un une surprise party. D'ailleurs, j'espère que la personne n'est pas dans la pièce en ce moment. mais il y a eu, comme il y a une saisie sur quelque chose d'agréable. Là. Ah oui, je veux offrir ça. Mais en plus, c'est beau parce qu'il y a quelque chose de généreux là-dedans. On peut reconnaître que tu veux offrir du plaisir à quelqu'un, tu veux reconnaître... la présence de quelqu'un, sa vie, etc. Bon. Alors, il y a quelque chose de très beau là-dedans, et il y a véritablement une saisie, parce que là, on veut pratiquer la méditation, tout ça, et ce truc-là revient. Tu sais, quand je disais le Dr. Tintin, une enseignante birmane qui vit aux États-Unis, très intéressante d'ailleurs, elle a une profonde connaissance de l'abhidhamma, de toute la pratique. Et juste parenthèse, là, je fais une parenthèse, ça n'a pas rapport, mais elle ne s'assoit jamais. Elle s'est jamais, ou presque très rarement assise. J'ai passé des fois quelques jours avec elle, on ne s'assoit pas, on cuisine, on fait le jardinage. Mais on est toujours des instructions très très précises. Puis donc c'est très intéressant comme façon de pratiquer là. Parce qu'on lit, on s'assoit, on lit le journal, on fait juste ouvrir le journal, puis des fois, elle lit juste le premier titre, juste pour qu'on voit les saisies. Tu sais. Elle dit, juste un truc politique, un truc comme ça, puis on voit, l'esprit se tend, tu sais, dès qu'on entend le titre de l'article. Ou, puis donc, il y a tout un travail autour de ça. Mais pourquoi je parlais du Dr. Tintin? Il y a vraiment un lien. Oui, ben tu sais, c'est ça, hier je disais, le Dr. Tintin a dit, « quand tu penses trois fois de suite à la même chose, là, il y a des chances qu'il y ait une saisie. » là. Alors toi, tu es assis, puis là tout à coup, l'anniversaire, puis là, bon, là, les ballons, les trucs, okay, les ballons, c'est réglé. Quelques minutes après, l'anniversaire, ah oui, les invitations, etc. Alors, c'est ça, il y a une saisie de quelque chose de plaisant, là. Puis, donc, il n'y a pas de faute, en fait. Mais dans le contexte de la retraite, on ne veut pas aller vers la planification, on ne veut pas suivre ça comme tu sembles ne pas faire, autant que tu le voudrais, peut-être, tu sais, parce que ça serait très agréable, ça t'éviterait de sentir d'autres choses, peut-être, dans le corps, etc. Mais donc, là, toi, tu as la chance de voir une saisie en action, comment, oups, l'idée revient. C'est très agréable, alors c'est d'autant plus difficile d'être éveillé à cette saisie-là parce qu'elle est agréable, tu sais. Si tu es pris dans une histoire, tu veux vraiment relâcher, tu as un désir de lâcher prise, mais là, c'est plus dur d'avoir un désir de lâcher prise parce que c'est un beau projet. Mais toi, tu as quand même la chance d'étudier la nature de la saisie, comment le truc revient, dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a un petit ennui. Probablement que quand il y a un moment où c'est neutre ou désagréable, un moment où il y a la tension vacille, par exemple, oups, c'est la porte de sortie immédiate. T'sais. Pour certains, c'est la rêverie, la planification, un truc comme ça. Le tout en ce moment, c'est ça, c'est la fête. Alors, l'idée encore, ce serait de ne pas se juger. C'est comme la voie du milieu, là. On ne veut pas se juger, mais on ne veut pas absolument passer la moitié de la journée à planifier. Puis j'entends que ce n'est pas ce que tu fais. Alors, mais c'est encore cette voie du milieu-là, juste de voir. Toi, tu étudies un phénomène, c'est le phénomène du surprise party.
Peut-être aussi, il faut que je fasse confiance, que ça va se faire sans moi, enfin, entre guillemets. J'ai pas besoin de m'en occuper, quoi.
De la
de
fête?
L'anniversaire.
Oui, je sais pas, peut-être que tu as besoin de t'en occuper,
non,
pas cette la semaine prochaine.
De la réalité, je m'en occupe, mais j'ai besoin de m'en occuper dans la vie parallèle.
Oui.
Alors là, c'est la vie parallèle, si je suis en train de...
Oui, c'est-à-dire que c'est beaucoup l'idée de choix, hein? C'est-à-dire que les gens, des fois, vont dire « Mais pourquoi je ne planifierais pas? Ça marche bien pour moi de planifier. Pourquoi je serais obligé d'être avec ma respiration? » Mais tu n'es pas obligé d'être avec ta respiration, tu peux planifier. Seulement, la chose, c'est qu'il y a des chances que tu planifies de façon incessante sans le choisir. Tu sais, pas nécessairement toi, Jean, mais hein, un méditant, une méditante qui dit « Mais c'est pas très douloureux pour moi de planifier. » Non, sauf que tu le fais de façon systématique sans avoir le choix. Nous, on est intéressés par l'idée de choix, d'être libre, de mettre son attention sur le développement de la sagesse ou sur l'anniversaire qui vient. Là, on voit que oups, ça tire un peu. T'sais. Puis tout le monde ici a quelque chose qui tire d'un côté. Tout le monde a la chance de planifier un anniversaire comme toi, mais il y a quelque chose qui vient nous chercher, puis on n'est pas absolument libre de choisir. Ça nous prend la tête d'une certaine façon. T'sais. Alors nous, on veut révéler ça, on veut voir que ces choses-là nous accaparent, nous prennent, nous kidnappent l'attention. Je vais voir quelque chose de beau à l'extérieur, puis tout à coup, oui, mais je ne suis pas avec l'être aimé, où est l'être... Oups, ma liberté d'être présent est accaparée par quelque chose, là. Ça ou autre chose, là. L'inquiétude, le ressentiment, etc. Merci.
Cette nuit, par exemple, il y a un volet qui claquait. Et j'étais réveillée, je me disais ça va s'arrêter. Je m'endormais, c'était agréable, et hop, ça recommençait. Et je me demandais concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Concret.
Oui. Et est-ce qu'il y avait une petite barrure sur le volet?
J'ai essayé les volets chez moi, dans notre chambre. C'était pas chez nous.
Ah.
C'était à un autre étage, probablement chez les messieurs, donc je ne pouvais pas aller.
Ouais. Oui, alors, c'est ça. Je sais pas si ça... De façon de voir ce qu'on fait, là, c'est qu'on développe une réceptivité, une sensibilité, bon, on fait ça, mais c'est pas la fin. C'est pas comme si tout à coup on retourne chacun chez nous et là on a une réceptivité incroyable. Tout peut se passer, on va absolument jamais agir, on va juste recevoir et être conscient de... C'est une partie de ce qu'on fait, là, c'est la moitié de notre vie, là, c'est apprendre à lire, comprendre ce qui se passe d'une façon plus profonde. Pour ensuite pouvoir agir de façon appropriée. Tout le truc est là-dedans. Là. Agir, répondre de façon appropriée. Il y a avec une certaine écoute, on va se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, puis il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Des choses désagréables qui se passent, qu'on peut corriger, on peut dire non, excuse, on ne peut pas me parler comme ça, c'est pas bienvenu, ça fonctionne pas. Et il y a d'autres choses qui se passent, un diagnostic par exemple, ah, ben là il y a ça, je peux agir là-dessus d'une certaine façon, mais là il y a ça, ce truc-là est là, je peux pas le refuser, c'est là. Alors, c'est le discernement, c'est de voir où est-ce que je peux agir, ne pas agir, puis garder une stabilité là-dedans. Puis là, donc, dans l'histoire du volet, chaque situation, évidemment, est différente l'une de l'autre. Oui, donc c'est ça. Voir, puis il y a des fois où on voit que, ah, je peux rien faire, c'est comme ça. Ou, ben, en fait, je peux peut-être faire quelque chose, puis... Puis donc, nous, ce vers quoi on se dirige, là, c'est vraiment la réponse appropriée, qui est une description, en fait, du nirvana. Hein. Le nirvana, dans un des textes zen, qu'est-ce que c'est le nirvana? C'est la capacité de répondre de façon appropriée à ce qui se passe. Donc, par exemple, dans une situation difficile, tomber dans le désespoir, est-ce que c'est une réponse appropriée? Mais c'est peut-être une réponse naturelle pour un moment, mais nous, ce qu'on essaie de voir, c'est ah, est-ce qu'il peut y avoir une certaine stabilité, ne pas perdre ses moyens, ne pas perdre le sommeil, ne pas perdre pour pouvoir rester là et répondre de façon appropriée. Je me souviens un truc qui m'avait marqué profondément, puis tiens, je vais finir avec ça. Il y avait une femme qui était en retraite, on faisait une longue retraite. Moi, j'avais la chance de passer toute la retraite dans les rencontres individuelles que Joseph Goldstein, mon prof, avait avec les étudiants. J'avais la chance d'être juste à côté pour observer le rapport. Et il y avait une femme qui venait depuis plusieurs jours, là, elle venait à tous les quelques jours. Elle était très, très tendue, très... rigide, là, mais je ne le dis pas d'une façon jugeante. On sentait qu'elle était comme ça, puis elle n'arrivait pas à être avec la respiration, elle n'arrivait pas, c'était comme ça, comme ça. Puis dans la discussion, il y a un moment où elle a raconté l'histoire de sa fille qui était une jeune adulte avec des problèmes de dépendance aux drogues. Puis elle disait, moi je suis ici pendant 3 mois, et les chances que ma fille meure d'une overdose sont très élevées, tu sais. Et puis donc, on peut comprendre là, pourquoi cette personne-là se retrouvait assis comme ça, très, très, très stressée, très déchirée. Et là, il y a un moment où je pense que Joseph lui a demandé qu'est-ce qui se passerait si, en fait, elle mourait. Et la femme est passée de la chaise au sol en une seconde, comme avec un genre de... cri, pas cri, mais son très profond, un genre de « Ah! » Puis elle est descendue comme ça au sol. Puis là, on ne voyait plus son visage. Puis là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait? » Puis elle est restée comme ça. Puis là, il y a eu une vague. On a vu, l'émotion était très forte. Mais c'est passé en quelques secondes, là, peut-être quelque chose comme 20, 30 secondes, je ne sais pas. Puis tout à coup, son visage est réapparu. Puis il y avait comme de la respiration, tout à coup on sentait, là, puis elle a dit « je survivrai ». Puis là, elle s'est assise, puis là, tout à coup, c'est comme, elle résistait à quelque chose absolument naturel, qui la rendait tout rigide. Puis là, après ça, sur plusieurs semaines, je l'ai vue, elle avait l'air beaucoup plus jeune, beaucoup plus détendue, beaucoup plus vivante, puis ça me semblait aussi beaucoup plus j'avais l'impression que là, si elle retournait à la maison, elle pouvait assister sa fille. Avant, je ne voyais pas comment elle aurait pu, parce qu'elle était tellement comme ça que j'imagine qu'il ne pouvait pas y avoir d'idées créatives, de flexibilité. Ça devait être très dur. Puis après ça, je me dis, ah, c'est ça le travail qu'on fait. Là, maintenant, elle peut répondre, en tout cas un peu plus de façon appropriée à ce qui se passe pour elle-même, pour pouvoir continuer à respirer, que son système immunitaire, que tout fonctionne, parce que Dieu sait qu'elle va peut-être en avoir de besoin tout à l'heure. Et là, on sentait qu'elle avait beaucoup plus de moyens, tout ça. Puis donc, j'espère que c'est OK de parler de ça. Je ne suis pas un parent, je ne connais pas ça. Je peux à peine m'imaginer la force de ce qu'elle vivait, là. Mais moi, de mon point de vue, en tout cas, je voyais quelqu'un qui était passé d'une réponse... naturelle, mais pas la plus sage, évidemment, puis on peut pas exiger ça de quelqu'un, mais là, tout à coup, on voyait qu'il y avait quelqu'un là qui était disponible à sa vie, qui était là. il y avait beaucoup plus de fluidité, plein de passages, d'émotions, tout ça. Il y avait quelque chose qui avait été libéré, là. Puis c'est ça, je pensais beaucoup à sa fille. Elle avait dit juste quelques mots sur sa fille, puis je me disais, sa fille est entre bonnes mains, là, avec une mère comme ça qui tout à coup est capable d'accepter toutes les possibilités, ou en tout cas, plus qu'avant. Puis est prête. Bon, il y a beaucoup de mes idées là-dedans, mais quand même, il y avait quelque chose, j'ai l'impression, qui se passait là. Je ne sais pas si ça répond à la question du volet, mais... OK. Alors, marche méditative. Ah!
Une autre question?
Ou quoi que ce soit, là. Mais... c'est ça, si vous décidez d'aller vous asseoir près du feu, franchement, pour moi, ça pourrait être égal. Et ça pourrait aussi ne pas l'être du tout. Mais c'est comment est-ce qu'on est... tu sais, il y a une façon habituelle qu'on a de vivre, puis là, on est invité à vivre d'une autre façon un peu, d'être un peu plus attentif. Une attention extraordinaire, juste une petite valeur ajoutée là, à la présence, à ce qui se passe. Puis là, on a tout nommé le range, là, le registre de ce qui peut être connu. Alors, faites ce qui vous semble juste, puis il y a un petit groupe là, qui va se rencontrer pour 30 minutes. OK? Merci beaucoup. Merci.